La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où la science découle-t-elle ? La physique et la philosophie ont toujours entretenu des liens explicites ou cachés. D'où cette idée que les concepts de la physique seraient l'aboutissement de notions métaphysiques bien antérieures. La physique résulterait en somme, au moins pour partie, d'une condensation progressive de la métaphysique. En réalité, tout n'est peut-être pas aussi simple. Prenons l'idée d'atome, ou plus exactement l'histoire de cette idée. Bien avant de s'imposer aux scientifiques, il y a un peu plus d'un siècle, elle avait déjà germé plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, dans l'esprit de quelques penseurs de l'Antiquité dont on dit qu'ils posèrent là les fondements de la science. Inventeur d'une métaphysique de la poussière, pour reprendre la formule de Gaston Bachelard, ces premiers atomistes rêvèrent que les éléments premiers de leur philosophie étaient indestructibles, éternels, pleins, c'est-à-dire compacts, et les imaginèrent s'agitant sans cesse dans le vide. Si profonde qu'elle fut, cette idée des atomes fut vite disqualifiée, notamment par Aristote, pour ne réapparaître vraiment qu'au XIXe siècle, comme objet de polémique cette fois. Ceux qui y croyaient s'opposaient durement à ceux qui n'y croyaient pas. Jusqu'à ce jour de 1906, où l'existence de l'atome fut démontrée grâce aux expériences menées à Paris par Jean Perrin. Dans un premier temps, les physiciens crurent que leur atome était la copie incarnée de celui des philosophes. Mais ils s'aperçurent vite que cette première conception était bien trop naïve. L'atome est en réalité un univers en soi, très différent de l'idée que les uns ou les autres ont pu s'en faire par le passé. Les atomes, les vrais, ceux qui existent dans la nature et constituent la matière, ne possèdent aucune des propriétés que les atomistes de l'Antiquité leur avaient attribuées. Ils ne sont pas insécables, en violation de leur étymologie. Ils ne sont pas pleins, puisqu'ils contiennent beaucoup de vide. Et ils n'ont pas toujours été présents au cours de l'histoire de l'univers, et ils ne sont pas tous immortels, certains d'entre eux radioactifs, se désintégrant au bout d'un certain temps. En somme, l'atome de la physique contredit en tout point l'idée philosophique d'atome. On se gardera d'en déduire que les atomistes grecs, ces penseurs géniaux, se sont trompés ou ont eu tort de penser leur atome tel qu'ils l'ont pensé. Au contraire même, ce sont bien ces atomistes anciens qui ont amorcé toute l'histoire. C'est bien leur idée de l'atome qui s'est révélée puissamment motrice et intellectuellement déterminante par les discussions et les controverses qu'elle a provoquées pendant plus de 2500 ans, pour aboutir à la découverte expérimentale d'objets tout à fait réels, eux, mais fort différents de ceux qu'ils avaient conçus. On voit qu'en l'occurrence, la filiation entre métaphysique et physique existe bel et bien, mais elle n'est directe qu'en apparence. Mais alors, comment s'opère-t-elle ? De quoi précisément la science, la physique par exemple, découle-t-elle ? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Michel Blais. Bonjour Michel Blais.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes philosophe et historien des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous publiez deux ouvrages, l'un qui s'intitule « Les Principia de Newton ». En fait, c'est pas les Principia, c'est des commentaires sur le texte de Newton.
Ce sont des commentaires, ouais, c'est une introduction, une mise en bouche. Après, on peut aller lire les Principia, mais c'est difficile.
On va en reparler. Ouais. Et le deuxième livre s'intitule « Critique de l'histoire des sciences ». Et donc, je vous ai invité pour ces deux ouvrages, puisque vous allez nous expliquer, de la façon la plus claire et la plus convaincante possible, d'où vient la science, d'où elle découle. Mmh. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez me dire... Depuis quand on fait de l'histoire des sciences? Comment est-ce qu'on a commencé à se dire, tiens, d'où la science vient-elle et comment a-t-elle commencé?
C'est assez difficile, mais je dirais que le premier à faire de l'histoire des sciences, c'est sans doute Fontenelle, dans les journaux de l'Académie des sciences, puisqu'il fait, il y a une partie histoire, il y a une partie mémoire dans ces journaux à partir de 1702. Et dans cette partie histoire, Fontenelle, à la fois, présente les textes qui sont publiés dans la partie mémoire, mais il les met en contexte et il commence à envisager à la fois des questions épistémologiques, le terme n'est pas de l'époque, mais il envisage des questions épistémologiques et des questions historiques. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ce sont de magnifiques textes, ces textes de Fontenelle. Une partie simplement a été, il a fait ça de 1702 à 1730. 1745, donc c'est énorme.
Mais il a vécu longtemps, il est centenaire.
Presque.
99 ans.
Oui, il est mort peu avant ses 100 ans, mais il avait commencé par la pastorale, par des textes poétiques, et il a eu une conversion à la science, je dirais, vers 1690, au moment où le calcul différentiel apparaît, il trouve les questions de l'infini traitées à ce moment-là passionnantes, et il entre. Mais il ne faut pas oublier une chose, Fontenelle a écrit Les éléments de la géométrie de l'infini, c'est un texte peu connu, un gros volume, où il refonde toutes les mathématiques.
À partir d'Euclide ?
À partir du calcul différentiel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il pose la question d'une manière tout à fait originale, parce qu'il dit, bon, les mathématiques, je vais les repenser, mais je vais les repenser à partir de l'idée d'infini et d'infini réel. Et il refait toutes les mathématiques dans un gros volume.
Mais bon. Par quoi fait-il commencer l'histoire des sciences proprement dite ? Est-ce qu'il la voit dans l'Antiquité ?
Non, il ne la voit pas vraiment dans l'Antiquité. On sort des âges obscurs, évidemment, qui ne sont pas vraiment obscurs, mais pour lui, il est du côté des modernes. Donc il est du côté d'une science qui apparaît. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était plutôt épistémologique, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur ce que c'est que cette nouvelle science, puis il la met un peu en parallèle.
Mais donc est-ce qu'on peut dire que c'est l'apparition de la science moderne qui a posé la question de l'histoire des sciences ?
Ah, probablement, oui, probablement. Probablement parce que la science moderne est un peu obligée de se situer pour montrer qu'elle est une nouveauté. Bien que les médiévaux pensaient aussi qu'ils étaient modernes à leur époque. Tout le monde pense qu'il est moderne à son époque. Nous pensons aussi que nous sommes modernes. Tout le monde est toujours moderne.
C'est presque la définition de moderne.
Voilà, on est toujours moderne, mais on est toujours les modernes des autres. Voilà, c'est ça l'essentiel.
Alors dans votre livre, celui qui s'intitule « Critique de l'histoire des sciences », Michel Blais, vous citez Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, qui dit ceci « Tenons pour acquis que dans son ensemble, l'histoire des sciences est placée devant une croissance absolue. Ou bien elle relate une croissance, ou bien elle n'a rien à dire. » Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que l'histoire des sciences est l'histoire d'une croissance ?
Je ne le pense pas absolument. Je ne le pense pas absolument. Je pense s'il y a croissance, il y a croissance depuis quand ? C'est ça la question. Histoire d'une croissance. Donc il faudra encore que l'on sache à quel moment l'histoire des sciences en tant qu'histoire des sciences prend son essor. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a, pour ma part, je pense qu'il y a des évolutions par morceaux, et que dans ces morceaux, il y a des croissances, mais je ne crois pas qu'il y a une croissance en soi depuis la nuit des temps, parce que les gens ne parlent pas de la même chose et n'ont pas les mêmes préoccupations. Nous sommes, nous, depuis le début du XVIIe siècle, dans une croissance technique incontestable. Mais est-ce que cette croissance a à voir avec ce qui s'est passé à l'époque médiévale ou chez les anciens ?
Si on dit, il n'y a pas une continuité historique qui garantisse que les concepts se propagent au fil du
les
temps.
Les concepts ne se propagent pas vraiment. D'ailleurs, pour cela, il faudrait encore redéfinir, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il faudrait redéfinir ce qu'on entend exactement par science. Parce que là, il y a une petite difficulté, qui induit d'ailleurs aujourd'hui des discours où il y a une confusion extrême entre science et savoir. Et je pense que cela, il faut le dissiper radicalement, sinon on peut dire à peu près n'importe quoi. Moi, la manière dont j'envisage la science, je l'envisage essentiellement comme un savoir, disons, qui repose sur la démonstration des Grecs. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité depuis les Grecs jusqu'à nous, qui s'appelle l'ordre démonstratif.
Mais c'est bien un savoir, vous avez employé le mot vous-même.
Donc. Oui, mais ce savoir, lorsqu'il est mis en ordre démonstratif, devient la science. Et donc, il y a une différence radicale. C'est-à-dire que les Grecs ne confondaient pas l'ordre démonstratif du savoir, l'ordre démonstratif du savoir, science, et, disons, la technique à côté, qui pouvait être plus ou moins démonstratif. Mais ce n'était pas la même chose. Et cet ordre démonstratif, on le retrouve à travers tous les siècles. Et c'est ça qui est essentiel dans cette affaire. En Occident, je dis bien en Occident.
Il commence quand avec Euclide ?
Il commence absolument le modèle paradigmatique, c'est Euclide. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Les propositions sont mises en place, les concepts sont définis, tout est clair. Et je pense qu'il y a dans l'idée de science quelque chose de clair pour tout le monde. C'est-à-dire que l'idée de science repose sur le fait que l'on peut tout le monde peut la lire. Euclide, il suffit de travailler et on le comprend. Un savoir, non. Parce que derrière le savoir, il y a des pratiques, il y a des savoir-faire. Ce n'est pas transmissible de la même manière. Or, cet ordre démonstratif, c'est ce qui fait, je dirais, la colonne vertébrale de la continuité de ce qu'on appelle science. Mais les concepts eux-mêmes ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais l'ordre démonstratif est le même. Les principia de Newton dont nous avons parlé tout à l'heure sont organisés exactement de la même manière qu'Euclide. Il y a des axiomes, il y a des lois, il y a des concepts. Et même Newton se donne les mathématiques qu'il va utiliser à l'intérieur des principia. Donc les principia, autant que faire se peut, sont transparents à qui veut entrer dedans. De même Galilée, de même Descartes, tous. De même Maxwell, d'un certain point de vue, et même la mécanique quantique, lorsqu'on l'axiomatise, elle est transparente. Et c'est toujours le même modèle. Mais les concepts ne sont pas les mêmes. Donc c'est l'idée de science qu'il faut, à mon avis, bien avoir en tête et bien préciser pour savoir de quoi l'on parle. Bon, alors il y a une croissance dans l'ordre démonstratif, évidemment. Ce n'est pas le même ordre démonstratif euclidien que lorsqu'apparaît le calcul différentiel. Lorsqu'apparaît le calcul différentiel, il met en cause un certain nombre d'ordre démonstratif mathématique, comme par exemple l'égalité, les infinitésimaux et l'égalité, il faut repenser l'égalité. Mais on peut le repenser parce qu'on est à l'intérieur d'un ordre démonstratif. C'est ça l'essentiel.
Alors j'ai bien compris, mais si vous dites qu'il n'y a pas de fil historique qui relie les concepts d'une époque à ceux d'une autre époque, il y a quand même une certaine fixité du vocabulaire, par exemple... Démocrite, un des premiers atomistes, parle de vide. Est-ce qu'un historien comme vous l'êtes est capable de penser ce que pensait Démocrite lorsqu'il utilisait le mot vide?
Ah, ça c'est une question, c'est sans doute la seule question décisive pour l'historien des sciences.
Parce que ce qu'on met derrière ce mot n'a cessé de changer au cours de l'histoire des idées.
Bien sûr, et c'est ça tout le problème. Et Hélène Metzger disait qu'il faut se faire le contemporain du savant sur lequel on travaille.
Alors, on est Est-ce que c'est possible?
C'est un effort, c'est la tâche. Et d'un certain point de vue, c'est ce que j'ai essayé de faire au plus dans le dernier livre, Critique de l'histoire. J'ai essayé de me faire le contemporain des différentes époques, y compris à l'époque médiévale, en entrant dans des problèmes théologiques. Parce qu'on ne peut pas penser...
D'ailleurs, je trouve que vous ressemblez un peu à Leibniz.
À Leibniz?
Plus qu'à Newton. Physiquement.
Ah bon?
Oui.
Oui. Ah bon?
Ça me vient comme ça.
Ah oui, mais c'est pas mal quand même. C'est entre Leibniz et Newton, oui, c'est bien. Non, mais c'est plutôt sympathique.
Mais bien sûr.
Et vous?
Non, c'est pas la question. Je voulais vous faire réagir à propos de ce que nous sommes en train de discuter, à un commentaire de Wittgenstein, justement sur la fixité du langage. Il écrit ceci. On entend toujours cette même remarque que la philosophie ne fait à proprement parler aucun progrès, que les mêmes problèmes philosophiques qui occupaient déjà les Grecs nous occupent encore. Mais ceux qui disent cela ne comprennent pas bien la raison pour laquelle il doit en être ainsi. Cette raison est que notre langue est demeurée identique à elle-même et qu'elle nous dévoie toujours vers les mêmes questions. Tant qu'il y aura un verbe être qui semblera fonctionner comme fonctionnent les verbes manger et boire, tant qu'il y aura les adjectifs identiques, vrai, faux, possible, les hommes viendront toujours heurter à nouveau les mêmes difficultés énigmatiques et contempler d'un air fixe ce dont aucune explication ne semble pouvoir venir à bout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue, à savoir que on pourrait dire que l'histoire de la physique, c'est l'histoire de la façon dont des mots qui sont fixes changent de sens et sont articulés d'une façon nouvelle?
Je pense que c'est assez vrai et ça s'accorde assez bien avec ce que j'ai dit de la démonstration. C'est un peu la même chose. On a une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale est plutôt, je dirais, ontologique, celle dont parle. Mais il y a une colonne vertébrale qui est une colonne propre à, je dirais, à la démarche de l'Occident, à l'Occident au sens large, c'est-à-dire tout le bassin méditerranéen et tout ça. C'est une démarche spécifique qui se constitue là. Et je crois que Wittgenstein a raison. Les mots peuvent être les mêmes, à peu de choses près. Mais le contenu qui est derrière n'est pas le même. Il change. Mais c'est pour ça que la question de la croissance est très très compliquée à mesurer.
Je reviens aussi à ma question. Comment est-ce que, sachant ce qu'est le vide pour un physicien d'aujourd'hui, comment pouvez-vous vous-même être capable de comprendre le sens qu'avait ce mot chez Héraclite ou chez Démocrite, alors même que leur savoir et leur concept étaient complètement différents des nôtres?
Oui, alors c'est un effort, c'est vraiment une question de travail des textes en eux-mêmes, c'est-à-dire une lecture, un approfondissement des textes. Il est clair que les enjeux du physicien aujourd'hui sont des enjeux, je dirais, de vie qu'on mesure, de vie technique. Les enjeux du physicien de l'Antiquité sont plutôt des enjeux d'être et de non-être. C'est-à-dire qu'on parle du vide, mais même au XVIIe siècle, quand il parle du vide, par exemple, quelqu'un comme Newton, comme Descartes ou quelqu'un comme Hobbes ne parle pas du vide de la même manière. Qu'est-ce que le vide pour Descartes ? C'est un vide qui est plein de choses, puisqu'il y a la matière subtile. Hobbes dira, mais c'est vide. Ou Pascal dira, c'est vide. Alors, il importe toujours d'entrer dans la signification profonde des choses et d'avoir bien lu les auteurs. C'est-à-dire qu'il faut les lire et en faisant attention à faire en sorte de se mettre à leur place et non pas d'être toujours avec ce que l'on sait, sinon on ne comprend pas. Là, je crois que c'est un effort considérable à faire pour tout le monde, que l'on soit physicien d'origine, philosophe ou autre, on a toujours cet effort considérable à faire. Si l'on veut remonter même 50 ans en arrière, je pense que la vision de l'atome au début du siècle et aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on raconte.
Vous avez déjà écouté la conversation scientifique, Michel Blais ?
Oui.
Alors vous savez qu'au bout de 20 minutes, nous passons un morceau de musique que vous avez choisi.
C'est un fait.
Il s'agit d'une chanson d'Aragon, le texte est d'Aragon, et il est chanté par Léo Ferré.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Et
Est-ce ainsi que les hommes vivent, par Léo Ferré? C'est votre choix, Michel Blais. Vous pouvez le justifier?
Oui.
En rapport avec le sujet, si
possible. Mais en rapport avec le sujet. Alors, y a de deux manières. D'une part, parce que j'aime beaucoup la poésie, d'une façon générale. J'aime bien Léo Ferré. Et est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est une question que l'on peut se poser quand on travaille en histoire des sciences. Car la manière dont les hommes vivent a à voir avec la science qu'ils construisent. Malgré tout.
C'est vrai, c'est-à-dire
que les
dans tous les siècles.
Ah, c'est vrai à tous les siècles. C'est-à-dire qu'on ne, la manière dont ils se posent un certain nombre de questions, la science en est une réponse à ces questions. Que ce soit des questions théologiques, métaphysiques ou autres, il y a des questions de fond. Et ces questions sont la science, à travers l'ordre démonstratif, constitue des réponses et des manières de vivre à cette époque sans être dans le pur existant dont il est question là. Là, c'est l'homme, tout seul, il vit.
Vous voulez dire que les questions que les hommes se posent à une certaine époque sont le vrai combustible de la science?
Pour une part, je pense, oui. Pour une part, je le pense, parce que aujourd'hui, on en a moins le sentiment. Parce que la science s'est, je dirais, technicisée au maximum.
Elle est masquée par la technique.
Elle est masquée par la technique. Mais derrière, il y a autre chose. Et cette autre chose était sans doute beaucoup plus visible à une certaine époque. C'est-à-dire que même pour un Galilée, il est un peu à cheval ou sur le fil entre faire de la technique et avoir de la connaissance, et augmenter la connaissance. Mais ce sont des questions qu'il se pose. Et jusqu'à quelqu'un comme Copernic, ce sont des questions théologiques qu'il se pose. Et il résout ces questions théologiques. Il les résout parce qu'il a des questions théologiques derrière lui. Comme les anciens, les Grecs, évidemment, il y a l'ordre des... Mais cet ordre démonstratif a pour objet de conduire ce logos, finalement, dont une des formes est l'ordre démonstratif, conduit l'esprit vers un idéal, vers l'intelligible. Donc il y a quelque chose qui nourrit la connaissance et qui est d'un autre ordre et qui appartient à la question « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Ils vivent d'une certaine manière.
France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein.
Alors Michel Blais, dans votre livre critique de l'histoire des sciences, vous citez Pierre Hadot, notamment oui. Un court extrait de son livre qui s'intitule « Le voile d'Isis, essai sur l'histoire de l'idée de nature ». Et vous rappelez que le mot grec qui désigne la ruse, c'est « mécané ».
Oui.
Donc la mécanique, c'est une sorte de ruse.
Oui.
Et pour le dire de façon plus explicite, il suffit de lire Pierre Hadot. La mécanique chez les Grecs est apparue tout d'abord comme une technique qui consiste à ruser avec la nature, notamment à produire des mouvements apparemment contraires à la nature, à l'obliger à faire ce qu'elle ne peut pas faire par elle-même, grâce à des instruments artificiels et fabriqués, des machines, balances, treuils, leviers, poulies, coins, vis, roues dentées, qui peuvent par exemple servir à construire des machines de guerre ou des automates.
Ce qui est important chez lui, chez les Grecs plutôt, c'est qu'il y a une distinction de fait entre ce qui relève de la nature et ce qui relève des artifices qui sont avec ou contre la nature. Les artifices, bon, les treuils, les poulies, c'est pour faire des choses, c'est pour travailler, c'est pour améliorer la vie des hommes, c'est pour que ça soit plus facile. Or, mais ça n'a rien à voir avec la nature qui, elle, est dans le devenir et dans sa constitution propre, un principe interne. Or, ce qui fait la grande différence avec les Grecs et nous, si je puis dire, depuis le XVIIe siècle, c'est que ce qui était conçu comme artifice, ce qu'ils appelaient technique, nous considérons que c'est la nature elle-même qui est comme cela. C'est-à-dire que la nature, dans son être, dans son essence même, est une machine. C'est ce que dit Galilée. Donc, si on a, compacté, si je puis m'exprimer ainsi, compacté en une seule chose, la nature et la mécanique. Mais là, derrière ça, il y a immédiatement une difficulté. Parce qu'en utilisant, en faisant de la machine, disons, la nature elle-même, et ça, cela va vous intéresser, il y a un problème de devenir. Lorsque les Grecs séparaient la nature qui était dans le devenir, ils ne pouvaient donc pas utiliser les mathématiques qui n'appartiennent pas du tout au devenir, qui sont dans l'intelligible. Lorsque on compacte les deux, alors que devient le devenir? c'est la question du temps et de la flèche du temps. Elle se pose d'entrée de jeu dès que l'on est chez Galilée, c'est-à-dire Galilée amène les mathématiques, disons la géométrie, et dit ce sont des machines, c'est la nature elle-même, elle est mécanique, mais si elle est mécanique, quid du devenir ? Il est perdu.
Mais cette question ne cessera pas de se reposer par la suite.
Absolument.
Puisque, au début du XXe siècle, par exemple, quand Einstein découvre ou apprend qu'il n'existe pas de solution stationnaire pour l'univers à partir de ses équations, il est très embarrassé. Parce que lui pense que des équations qui n'ont pas d'histoire ne peuvent pas expliquer l'histoire de l'univers.
Et on est dans cette affaire du devenir qui se pose pas chez les Grecs. Ils n'ont pas de problème. Mais à partir du moment où on associe les deux, et en plus, si on revient sur la chanson, les hommes vivent dans le devenir. Ils ne vivent pas dans le temps de la mathématique. Et là, on a une difficulté qui est une difficulté propre à la science moderne, je dirais, depuis le XVIIe siècle.
Alors, nous en reparlerons à propos de Newton tout à l'heure, mais avant, je voulais vous interroger sur Copernic, puisque Michel Blais, vous dites que les arguments ou les questions que se posait Copernic étaient d'ordre théologique. Est-ce qu'on peut dire que son ouvrage, qui a été publié après sa mort, produit vraiment une démonstration du fait que la Terre tourne autour du Soleil ? Est-ce que ça suffit ? Ou est-ce qu'il manque des arguments qui seront trouvés par Galilée par la suite, par Newton évidemment, et puis par d'autres ensuite ?
Les arguments concernant la rotation de la Terre, c'est Bradley, c'est les problèmes d'observation stellaire. Hein, prouver que la Terre tourne est très difficile, alors qu'on est convaincu qu'elle ne tourne pas. C'est évident.
Mais là, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut lire Copernic aujourd'hui ?
Alors, il faut le relire Copernic parce que là aussi, il y a un problème d'histoire des sciences sur lequel il faut préciser. Mais c'est un bon exemple à mon avis d'histoire des sciences. En général, on considère que je parlerai pas de révolution scientifique, mais que la science moderne commence avec Copernic. Hein. Copernic a pris la Terre qui était au centre et l'a envoyée dans les cieux. Très bien. Et puis, à ce moment-là, Galilée lui-même a pris une lunette, a observé le ciel et il a vu des tas de choses. Bon. Mais je ne pense pas que cela se soit passé de cette manière. Copernic n'est pas un homme du 17e ni du 18e, c'est un homme du 15e siècle. L'ouvrage est publié en 1543, l'année même de sa mort, mais il n'a pas de preuves. Il n'a aucune raison.
Ni même de démonstration, on pourrait dire.
Non, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Copernic ? Et si on lit le texte avec attention, je serai bref, mais simplement pour dire les choses. Il y a, chez Copernic, l'idée que le monde doit être parfait, harmonique et beau. Non pas avec des morceaux rajoutés, comme on le faisait à l'époque, ou comme on le faisait depuis Ptolémée, pour sauver les phénomènes.
C'est bien lui qui parle du temple splendide ? Oui, à propos de l'univers.
Oui. Pourquoi il parle de ça ? Parce qu'il veut, je ne reviendrai pas sur les prédécesseurs, mais il veut que ce soit d'abord parfait, donc que les orbes soient parfaitement circulaires. Il le souhaite. Il le souhaite parce que c'est un retour au néoplatonisme et au platonisme des anciens. Bon, alors on a la Terre, toujours au centre, et des orbes parfaites autour. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il envoie la Terre dans les cieux ? Mais c'est incompréhensible. Sauf si on lit bien Copernic. Qu'est-ce qu'il nous dit, Copernic ? Il nous dit, la Terre, elle est parfaitement sphérique. Alors vous vous dites, ce type, il est complètement fou. La Terre, elle n'est pas parfaitement sphérique. Je sors de chez moi, je vois des vallées, des montagnes, c'est pas parfaitement sphérique. Si, parce que la Terre est à la fois sensible, on voit des vallées, mais elle doit être aussi pensée intelligible. Et si la Terre est intelligible, pour une part, elle lit en elle-même le sensible et l'intelligible. C'est le premier geste de la modernité. Joindre le sensible et l'intelligible.
C'est-à-dire que les montagnes sont la preuve de la sensibilité de la Terre ?
Non, de notre sensibilité. Monsieur plaisante. Mais la Terre, elle est... Bon, et donc c'est possible. À partir du moment où elle est intelligible, elle doit rejoindre le lieu des intelligibles, c'est-à-dire les autres astres qui sont des intelligibles.
Donc, mais dans ce raisonnement, il n'y a aucune part qui est faite à la gravitation, ni aux lois physiques.
Ah non, ben, il n'y en a pas.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit de lui qu'il est le père de la science moderne ?
Eh bien, parce que, à mon avis, c'est une grave erreur. Disons qu'il peut y avoir plusieurs pères. Hein, c'est, on est dans la modernité.
Parmi eux, il y a Galilée, vous êtes
parmi
d'accord?
Parmi eux, il y a Galilée, parmi eux, il y a Giordano Bruno, parmi eux, il y a Kepler. Mais je pense qu'il y a des pères qui ne savaient pas qu'ils étaient des pères. Par exemple, Copernic, lui, est un théologien. Ce qui l'importe, c'est l'union du sensible et de l'intelligible, c'est-à-dire l'union des contraires, et l'union des contraires, c'est le Christ. D'où le temple splendide et le temple de Dieu. Parce que la terre est nécessaire, représente quelque chose, disons, qui a à voir avec le Christ. Et il y a un autre père, qui est évidemment Bruno. Bruno qui affirme quelque chose, c'est-à-dire l'infinité du monde. Mais une infinité du monde très particulière, puisque c'est une infinité du monde dont il a évacué le Christ. Il faut bien se rendre compte qu'on... C'est ce dont on parlait au début. Nous sommes dans des mondes organisés, des mondes, les Copernic, son texte, les révolutions des objets, c'est un texte parfaitement organisé. C'est-à-dire qui suit
l'ordre démonstratif.
Mais bien sûr, il s'applique à autre chose, cet ordre démonstratif. Comme d'ailleurs saint Thomas était dans l'ordre démonstratif, la théologie rationnelle, c'est l'ordre démonstratif aussi. Mais ça, cela travaille tous les siècles. Mais bien sûr, on parle d'autre chose. Et Galilée, qui est un ingénieur admirable, mais un homme qui fait des machines, qui propose de faire des machines, quand il a entre les mains le système de Copernic, là, il se dit, mais de ce système, je peux faire une machine. Ce qui n'était pas possible du système ontologique aristotélicien. Je peux faire une machine. Et cette machine, évidemment, si c'est une machine, mais moi, ingénieur, je peux construire une lunette pour regarder ce qui se passe dans le ciel. Alors qu'aucun, à l'époque, n'avait l'idée qu'il pouvait se passer quelque chose dans le ciel, puisque c'était intelligible. Nous sommes dans une situation équivalente. Nous ne savons pas ce que nous aurons à voir.
C'est d'ailleurs en croyant voir des montagnes sur la Lune qu'il a compris que la Lune était terreuse.
Voilà. Mais pourquoi allait-il voir là-haut? Parce qu'il pensait d'abord que c'était un monde mécanique qui était susceptible. Parce que de quel droit peut-on regarder le ciel avec une lunette faite par un homme alors que le ciel est de l'ordre des intelligibles et incorruptibles? On ne doit rien y voir. D'ailleurs, les contemporains n'y ont rien vu. Nous sommes dans des situations pareilles. Nous ne savons pas ce que nous voyons et ne voyons pas. Nous sommes dans un monde, mais qu'y a-t-il effectivement? Hein, la matière noire, bon, on ne sait pas ce que c'est, etc., etc. L'éther du 19e siècle.
L'éther luminifère.
Ouais, ben il a disparu. Il revient. Les êtres,
il revient, mais il n'est plus luminifère. Il ne porte plus la lumière.
Voilà. Donc, c'est un objet sur lequel on a fait des manipulations, on a étudié des tas de choses et qui n'existe plus. Donc, il y a toujours une instabilité des êtres physiques. Je trouve ça formidable parce que ça montre que la physique est quelque chose qui vit intellectuellement et les objets qui nous entourent les objets théoriques de la physique ont une certaine instabilité, mais c'est bien pour ça que la physique n'est pas au sens strict une théologie.
Alors, il y a quand même des lois qui sont relativement stables.
Oui.
On a parlé de Galilée. Galilée découvre le mouvement des graves, comme on l'appelle. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Et il le découvre à une époque où on ne sait pas faire le vide. Et on discute même de son existence.
Oui.
Comment est-ce qu'il a pu élaborer une loi qui est contradictoire avec l'observation? Puisque quand on fait tomber des corps de masses différentes, on voit qu'ils ne tombent pas tous à la même vitesse dans l'atmosphère.
Oui.
Donc, il écrit une loi qui est la bonne loi de la chute des corps, mais qui est contradictoire avec ce que montrent les phénomènes.
Oui, c'est d'ailleurs ce que lui dira Descartes, qui est un homme sérieux. Il lui dira mais c'est pas ce qu'on voit. Effectivement. Mais je pense que, à quelles conditions, parce que c'est bien ça qui est dans la tête de Galilée, à quelles conditions peut-on faire de ce mouvement de chute une loi mathématique?
Géométrique.
À quelles conditions peut-on la faire? Il se pose cette question-là. Il ne la trouve pas, il se pose la question. Et à partir de ce moment-là, il construit, en particulier, il construit une manip, pour parler en termes modernes, une expérience qui lui permet d'établir quelque chose. Et cette expérience est très intéressante puisque c'est une expérience qui... Il étudie comment tombent dans des liquides différents des boules de balsa, des boules de liège et des choses comme ça. Il étudie les variations, il étudie le rapport du poids spécifique du corps au poids spécifique, ce qu'on appelle aujourd'hui la densité, au poids spécifique du liquide dans lequel le corps tombe. Et il observe qu'il y a une, que ça évolue en fonction. Et il se pose à un certain moment, mais que se passe-t-il si le poids spécifique du liquide est égal à zéro?
C'est une sorte de passage à la limite.
Passage à la limite. On sort de l'empirie, du côté empirique, pour entrer dans le côté intelligible. Et à ce moment-là, ben, il dit, le rapport ne peut pas être construit, donc tous les corps tombent de la même manière, puisqu'il n'y a plus de spécificité. Et c'est ça qui est essentiel. Dans le vide, puisque c'est pas le vide, c'est le poids spécifique qui est nul. S'il n'y a plus de résistance, je dirais plutôt, s'il n'y a plus de résistance, tous les corps tomberont de la même manière. Ça, c'est un résultat radicalement neuf.
Est-ce que c'est pas ça qui est la véritable invention de la physique moderne?
À mon avis, c'est ça le point de départ. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on sait tous les corps tombent de la même manière, je vais pouvoir les mathématiser. Parce que je dois répondre aux questions, ils tombent tous de la même manière. Mais de quelle manière? Avec quel type d'accélération? Avec quelle vitesse? Suivant le temps, suivant l'espace, suivant quoi? Là, j'ai tout un travail de mise en place, de construction conceptuelle, qui arrive à la fameuse loi de chute des graves, qui est valable pour tous les corps. Il suffit de faire des expériences dans le vide aujourd'hui pour voir que tous les corps tombent bien de la même manière. C'est très joli. Mais c'est totalement incroyable pour l'observation. Totalement incroyable. Je me souviens quand j'étais prof de lycée, en terminale, on faisait ce qu'on appelait l'expérience de Newton, que Newton n'a jamais faite, mais ça n'a pas d'importance. On prend un tube dans lequel il y a de l'air et il y a une plume, un morceau de balsa et une bille de plomb. Bon, alors on tourne le tube, on le met verticalement. Bon, tout tombe en désordre, évidemment. Et puis on dit, maintenant je fais le vide. On fait le vide, alors tout le monde dit, bon, ici, il ne va rien se passer de particulier. À ce moment-là, on voit la plume, le balsa et la bille de plomb tomber exactement en même temps. Et ça stupéfie. Ça stupéfie absolument. Or, c'est à partir de cela qu'une physique mathématique est peut-être mise en place. Ça, c'est absolument fascinant. Ça, je dois dire que c'est une expérience qui... je crois qu'on la fait plus, c'est dommage, parce que c'est là que l'on voit qu'il y a une rupture entre le monde qu'on va construire, c'est-à-dire le monde mathématique de la physique, et le monde de l'expérience commune.
Vous connaissez l'anagramme de la chute des corps, Michel Blais?
Non.
Hors du spectacle.
Ça, c'est pas mal.
Elle est hors du spectacle.
Elle est hors du spectacle, effectivement. C'est parfaitement ça. Elle entre dans la sphère de l'intelligible.
Voilà, et c'est le moment d'écouter de la belle musique, non?
Absolument.
Michel Bey, il est horrible de devoir interrompre cette musique. On dirait du Mozart.
Oui, on dirait du Mozart, en effet, du Mozart bien interprété.
Ça fait un peu chef-d'œuvre.
Oui, oui. Mais je ferai une petite remarque. Tout à l'heure, nous étions dans « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Nous étions dans le sensible. Là, nous tendons vers l'intelligible.
Qui, vers les qui interprète plus...
Hélène Grimaud. Hélène Grimaud, je trouve qu'elle est très, elle a un jeu de piano extrêmement sensible que moi j'aime bien. Et puis là, c'est assez lent. Là, c'était, je trouve ça très très beau. N'étant pas un mélomane extrêmement spécialiste, disons qu'il y a des choses qui me saisissent et j'adore le piano en tant que tel. Ça, c'est une chose que j'ai toujours aimé. J'adore écouter du piano quand il est bien joué. Cela va de soi.
Alors peut-être allons-nous terminer cette émission en parlant plutôt de Newton. Après Galilée, Copernic, il s'impose. Quand on parle d'Annus Mirabilis de la physique, on pense souvent à 1905, l'année où Einstein publie 5 papiers extraordinaires. Mais il y en a une autre, c'est l'année 1665-1666.
Oui, ça c'est l'Annus Mirabilis de Newton. Newton. Oui, mais je pense que je ne sais pas laquelle a été définie la première comme Annus Mirabilis. Mais je crois que c'est quand même celle de Newton et qu'on a pris celle d'Einstein après comme
par référence.
Par référence.
J'aurais tendance à vous faire confiance. Vous êtes historien.
Mais c'est pas. Mais la confiance là n'est peut-être pas absolue. On peut.
Alors qu'est-ce qu'il fait Newton pendant cette année cruciale?
Mais c'est-à-dire il fait. Il ne fait pas tout, mais il met tout en place. C'est-à-dire qu'il a ses premiers travaux d'optique, il a les premiers travaux sur la gravitation universelle, mais on est loin de la gravitation universelle. Disons qu'on est dans le savoir, on n'est pas encore dans l'ordre. Il y a aussi les premiers travaux sur les mathématiques, ceux qui donneront plus tard le calcul des fluxions. C'est-à-dire que dans ces années-là, alors qu'il y a la peste à Londres, c'est l'année de la grande peste, il est chez lui, ce qui prouve qu'on travaille bien chez soi.
À la campagne.
Et donc il travaille, on a ses carnets de notes, on a ses manuscrits, et on voit qu'à cette époque-là, et à mon avis, ce sur quoi il a le plus avancé à cette époque-là, c'est incontestablement les théories de la lumière, les théories de la couleur. C'est là où il a le plus avancé, puisque c'est ce qu'il publiera en premier, après. Mais tout est en chantier, c'est-à-dire qu'il brasse tout, ce qui est assez extraordinaire, je veux dire. Il est né en 1642, donc il n'est pas très âgé. Il est né, et ça c'est amusant, il est né l'année de la...
Il a 23 ans, 24 ans.
Voilà, et il est né l'année de la mort de Galilée. Le passage de témoin, c'est fait.
Il prend le relais.
Voilà. Mais on a oublié, quand on dit cela, on oublie quelqu'un. On oublie Christian Huygens. Qui est précisément, qui a le malheur d'être un peu sur Descartes, je dirais, un peu sur Newton, entre les deux. Et c'est pas bien pour l'histoire des sciences d'être entre les deux. Il y a les grands hommes et puis les autres au milieu sont un peu coincés. Or, Huygens est un homme extraordinaire. C'est vraiment un très très grand savant.
Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler dans cette émission. Mais avant, je voulais vous interroger sur ce fameux livre de Newton, Les Principia, qui paraissent en 1687.
La première fois.
Donc un peu plus de 20 ans après cette année miraculeuse, disons. Et c'est un texte extrêmement difficile à lire, peut-être impossible à lire aujourd'hui.
Alors, il est impossible essentiellement... Non pas pour la mise en place, parce que si l'on travaille, on rentre dedans, c'est ce que je disais dedans, on peut, tout à l'heure, on peut entrer dedans. Le problème, ce sont les mathématiques. Nous ne sommes plus des spécialistes de la géométrie, qu'elle soit infinitésimale ou classique ou euclidienne, de la manière dont l'étaient Huygens ou Newton, qui étaient des géomètres extraordinaires. Donc il faut réapprendre un peu de géométrie pour pouvoir entrer là-dedans.
C'est ça, les démonstrations frappé, c'est qu'il y a pas d'algèbre.
Absolument pas.
Pourquoi il n'y a pas d'algèbre? Parce que c'est un calcul aveugle, on ne voit pas ce qu'on
fait. Alors là, il y a plusieurs thèses. Effectivement, personne ne travaillait en algèbre à l'époque, sauf du côté strictement mathématique. Mais lorsqu'il s'agissait de physique, or, les Principia, même si l'on peut dire que les deux premiers livres sont des livres de mathématiques, et ce sont des livres de physique, les forces centrales. Et ce que je crois, c'est que Newton voulait utiliser des mathématiques assez stable et assez rigoureux. C'est sa méthode des premières et dernières fluxions qui est un ancêtre du calcul des limites. Mais cela lui permettait d'éviter ce qu'il voulait absolument faire, l'usage des indivisibles et des petites
quantités.
Des petites quantités, parce que là, ben, comment on somme des petites quantités? Une somme de petites quantités infinies, ça donne l'infini. C'est très très embêtant tout ça. Tant qu'on n'a pas, disons, les outils conceptuels du calcul différentiel, et même, je dirais, plus tard, de l'analyse non standard pour boucler la boucle, on a beaucoup de difficultés à manipuler les dx et les dt et toutes ces choses-là. Beaucoup de difficultés, sauf en étant courageux, en ne faisant pas attention à tout ça, c'est-à-dire comme le feront les Bernoulli et surtout Pierre Varignon. Et c'est pour cela, j'en ai parlé tout au début, et c'est bien toujours de faire des révolutions, Fontenelle, dans ses éléments de la géométrie de l'infini, dira « Oui, mais tout ce calcul est désinfiniment petit, ça marche. » Mais quel est le fondement? Quel est le fondement de cela? Or, ça, c'est une question essentielle. Ça, c'est une vraie question de science. Vous utilisez ça, ça marche. Très bien. Vous êtes content, vous allez faire tous vos calculs. Mais sur quoi ça repose? Quelle est la théorie en dessous de ça?
On se pose la même question à propos de la physique quantique aujourd'hui.
Ça
marche, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, c'est ça les vraies questions, à mon avis, les vraies questions de science à une époque donnée. Ça marche, bon, on est content. D'autant aujourd'hui, ça marche d'autant mieux qu'on a des aisances calculatoires qu'il n'avait pas avant. Donc ça marche, ça tourne, mais de quoi on parle exactement? Quels sont les objets en jeu? Est-ce qu'il y a même des objets en jeu autres que les mathématiques dont on parle? Ça, ce sont des vraies questions. C'est ces questions-là qui font, à mon avis, beaucoup avancer la pensée. Si on se limite à faire les calculs, ça, tout le monde sait faire, mais là, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Quels sont les objets qui sont en jeu?
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, on a l'impression que Newton, dans les Principia, il veut montrer ce qu'il y a à voir. Donc, il fait des démonstrations qui sont géométriques, il y a des figures. Est-ce qu'à l'époque, la géométrie a un statut symbolique beaucoup plus important que l'algèbre?
Ah, ça, je pense que c'est incontestable. Pour tout ce qui est... Il y a de l'algèbre chez Descartes. Hein. Il y a les équations... Bon, mais l'algèbre, Descartes, par exemple, parce que ça peut être intéressant. Descartes qui écrit « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle », dont on voit bien que le titre sera repris par Newton... ne mélange jamais l'algèbre et la géométrie. Et Newton ne mélange pas non plus l'algèbre et la géométrie. La géométrie, c'est le monde dans lequel nous vivons et à partir duquel et sur lequel nous raisonnons. Il est très intéressant de voir les démonstrations géométriques de Newton. Ces démonstrations, son calcul infinitésimal, c'est de la géométrie, disons, que l'on voit... qu'on a sous les yeux, on voit les grandeurs diminuer, augmenter, on les voit, ça se fait, on est quasiment dans le réel. Si vous mettez de l'algèbre, vous êtes dans le calcul aveugle. Vous avez un point de départ, vous avez un résultat. Entre les deux, c'est quoi?
Mais c'est la même chose qu'on dit aujourd'hui à propos de l'intelligence artificielle. Ça donne des résultats, mais on ne sait pas comment ils sont obtenus.
D'un certain point de vue. Sauf
donc
que
c'est
là,
une boîte
on est...
noire.
Voilà. Et ça, je pense que poser cette question est essentiel. Et d'un certain point de vue, les Principia restent un ouvrage, disons, où on a les pieds dans le sol. On est là. On voit tout ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. Après, quand le calcul différentiel va transformer les Principia... C'est-à-dire, tout va être rebâti, hein, parce qu'il n'y a pas de cinématique dans les Principia. Donc on va construire une cinématique, on va construire l'algorithme de la cinématique dès 1700. À ce moment-là, on entre dans l'algorithmisation de la science, celle que l'on connaît encore maintenant. Et Newton devient très rapidement, je dirais, les Principia deviennent très rapidement, du point de vue de la pratique... démodé. Bien sûr, du point de vue du programme de recherche.
Alors, qui les a lus à l'époque? Combien de personnes se sont précipitées sur la lecture des Principia?
Alors, personne s'est précipité.
À la fin du XVIIe siècle.
Personne s'est précipité. Il en a envoyé un certain nombre en Europe. Et l'un des premiers à lire les Principia, c'était Leibniz. D'ailleurs, on le sait pour une raison très simple, c'est qu'il a fait des marginalia. Donc on a son exemplaire, il y a des marginalia. Et comme il avait son calcul différentiel depuis quelques années, il a transcrit, c'est amusant les marginalia, parce qu'on voit Leibniz qui lit les Principia, et il transcrit. Alors Newton parle d'un petit temps, alors Leibniz écrit d'été. Il parle de...
Et la traduction en quelques différences.
C'est une traduction. Oui, mais il arrête au bout d'un moment. Parce que la traduction, on ne peut pas, si on traduit simplement les Principia en calcul différentiel, on n'a pas de vitesse et on n'a pas l'algorithme. Parce qu'il n'y est pas dans les Principia. Donc il faudra inventer un concept de vitesse, le fameux dx sur dt, il faudra le poser, mais c'est très difficile de l'opposer, parce que ce ne sont pas des homogènes, x et t.
Est-ce que ça veut dire que nous faisons dire au Principia aujourd'hui des choses qui n'y sont pas?
Ah oui, ça c'est absolu, il n'y a même pas la première loi, la loi du mouvement. Enfin, il y a la loi d'inertie, ça on peut dire qu'elle y est. Mais la fameuse loi de Newton, F égale md2x sur dt2, n'y est évidemment pas. Pour de multiples raisons, il y a une loi qui ressemble, mais elle parle de la variation du mouvement. Donc c'est quand même la variation du mouvement, la force et variation du mouvement. Il n'y a pas de T, il n'y a pas d'analyse différentielle, il n'y a pas tout ça. Cela apparaîtra au milieu du XVIIIe siècle.
Hein, bien plus tard.
La construction définitive. Alors évidemment, dès les années 1700, Pierre Varignon met en place l'algorithme de la cinématique, mais dans des cas particuliers. Et ça va se généraliser. La forme définitive, c'est avec Euler. Oui, Euler, la forme définitive. Donc on est au plein milieu, au milieu du 18e. C'est très très compliqué. C'est des choses d'une difficulté extrême. On a l'habitude, nous, de croire que les choses vont de soi, mais rien ne va de soi. Lorsque Galilée, donne la loi de chute des corps, nous en avons parlé tout à l'heure, mais quelle idée a-t-il du continuum? Quelle idée a-t-il du temps? Comment un mouvement commence? Zénon est derrière. Il dit, le mouvement passe par tous les degrés de vitesse, je le dis. Et il le dit, c'est bien, mais s'il passe par tous les degrés de vitesse, comment cela est-il possible? Il faut un temps infini, donc il l'affirme. Bon, voilà, etc. Mais tout ça, c'est un travail conceptuel énorme.
Tout ça est passionnant, Michel Blais, mais... En fait, je suis ravi de vous avoir invité parce que c'est passionnant, mais aussi parce que j'ai une question qui me turlupine depuis très longtemps et que je vais pouvoir vous poser.
Oui.
Parce que vous connaissez bien les Principia Newton. Newton, dans ce texte, introduit le temps vrai, qui est le paramètre T, celui qui deviendra le paramètre T des équations de la mécanique. Or, ce temps mathématique, abstrait, n'a aucune des propriétés qu'on attribue d'ordinaire au temps quand on parle du temps. C'est un temps qui ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. C'est un temps absolu, c'est un temps qui n'est pas modifié par ce qui se déroule en son sein. Bref, il ne ressemble pas du tout, il contredit même le temps tel qu'on le pense. Alors d'où lui est venue cette idée de nommer temps une variable mathématique qui ne ressemble pas au temps?
Alors, c'est un temps sans relation aux choses sensibles, dit-il. Sans relation...
C'est qu'à avoir avec Dieu.
Alors, là, bon, il a été inspiré, il y a une source, c'est Isaac Barrow. Et c'est un temps métaphysique. Hein. C'est le cadre à l'intérieur duquel les choses peuvent se dérouler.
Oui, mais c'est justement ce qu'on appelle le temps physique, qui n'est plus métaphysique du coup.
Et oui, mais ce temps physique, c'est comme la loi de chute des corps. Est-elle dans le monde? Ou est-elle extérieure au monde? La question de ce temps, on dit pour mathématiser... Alors, d'un autre côté, Newton, lorsqu'il présente le temps absolu, on peut le voir comme une condition de la mesure du temps. Bon, ça c'est une chose. C'est-à-dire, ça c'est le point de vue, je dirais, positiviste de la chose. Mais lorsqu'on dit, on va faire une physique mathématique et on a besoin du temps, du petit temps algébrisé. Bon, très bien. Mais cette physique mathématique, elle parle de quoi? Puisque ce temps n'a aucune relation aux choses sensibles. De quoi parle-t-il? Et de quoi parle véritablement la physique? C'est une question que j'aurais tendance à vous poser maintenant. De quoi parle-t-elle? Si précisément le petit t, c'est ce petit t, le temps absolu, c'est le petit t, même si on a les rapports, les référentiels einsteiniens, dans chacun, c'est le petit t. Ce petit t, mais... Il est hors des choses sensibles. C'est un petit t de l'intelligible. Et alors?
Oui, mais il a rendu la physique efficace.
Il a rendu.
C'est-à-dire qu'il a produit des équations qui permettent de prédire des phénomènes, de décrire des phénomènes également, et avec une précision qui est quand même si remarquable qu'on est en droit de se demander si ce petit t ne contient pas quelque chose d'un peu vrai.
Voilà, je suis.
Je parle du temps d'Einstein, pas de celui de Newton, qui est mort en 1905, comme chacun sait, mais. Il y a là une efficacité qui interroge le statut de cette variable.
Absolument, le statut de cette variable et le statut de ce dont on parle, effectivement.
Mais la question, moi, c'était plutôt pourquoi est-ce que Newton a choisi de l'appeler temps alors que les discours sur le temps font du temps tout à fait autre chose.
Il l'appelle durée. J'appelle durée, etc. Mais à mon avis, c'est le temps. Mais parce que, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a une vraie difficulté au niveau du temps dans la physique à partir du moment où on a conçu la physique comme physique mathématique. C'est-à-dire qu'on la conçoit hors du temps. Or, il faut bien réintroduire le temps pour mesurer. Or, le temps n'est pas le devenir. Donc, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que le devenir, c'est ce qui se passe. Hein. Nous sommes des êtres finis, nous allons mourir, nous sommes dans le devenir. Or, il continue à avoir un temps efficace. Mais cette efficacité n'est-elle pas simplement...
Ça va devenir simplement... le problème récurrent de la flèche du temps. Comment se fait-il que des équations qui ne dépendent pas du temps, qui sont réversibles même, peuvent rendre compte de phénomènes qui sont irréversibles?
Voilà, mais on est exactement là. Et je pense que ça naît avec la physique mathématique et ça n'arrive pas à en sortir vraiment. Parce que je pense qu'il y a une... On rate la question, notre question du devenir du monde. Qui n'est pas simplement l'histoire du Big Bang. Parce que le devenir peut englober, évidemment, le Big Bang. C'est un phénomène. Mais le devenir, qu'est-ce qui est, finalement? C'est ça qui est derrière ça. Or, les Grecs, là, étaient très prudents dans cette affaire. Je dois dire très, très prudents. Nous ne le sommes beaucoup moins. Il y a une efficace, mais n'est-ce pas que cette efficacité n'est-elle pas simplement l'efficacité des artifices des anciens, c'est-à-dire des machines sans rapport avec le monde? Y a-t-il derrière la physique quelque chose qui est dit du monde ou pas? Je ne sais pas.
J'ai l'impression à vous écouter, Michel Blais, que les différentes époques de la science sont incommensurables les unes avec les autres. Je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique pour nous l'expliquer. Et il y a une citation de Maurice Merleau-Ponty que je vous livre, parce qu'elle me semble éclairer votre démarche. Il écrit « La vraie philosophie est de rapprendre à voir le monde ». Je vous remercie d'être venu dans ce studio. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. Suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honaud-Dibiot pour le temps des écrivains.